comment parler de la révolution culturelle sans aborder la question des gardes rouges? Rappelons qu'à l'été 67, en plein cœur de la révolution culturelle justement, des milliers d'ados se sont entretués dans les rues de Chongqing. 645 filles et garçons ont péri. Aujourd'hui, il n'existe plus de traces de cette tragédie, sauf un cimetière caché au fond d'un parc et interdit au public. C'est le seul cimetière de gardes rouges encore debout en Chine. Un jour par an, les survivants reviennent sur les tombes de leurs anciens camarades. Les gardes rouges constituent à l'époque un mouvement de masse chinois comprenant en grande partie des étudiants et des lycéens dont Mao s'est servi pour poursuivre le processus de la révolution culturelle. Cette révolution visait à purger le parti et renforcer le maoïsme après l'échec du Grand Bond en avant. Alors les gardes rouges seront les auteurs de terribles excès durant celle-ci, allant de la destruction systématique du patrimoine à l'humiliation publique, l'enfermement en camp de rééducation et parfois l'exécution des intellectuels. Alors ce mouvement fut encouragé et manipulé par Mao dans une stratégie de reconquête du pouvoir. Il ferma les lycées et les universités de 1966 à 1972 pour favoriser leur développement. Les gardes rouges furent ensuite disgraciés et persécutés par Mao, qui exila nombre d'entre eux dans les campagnes les plus reculées et mit fin brutalement à leurs excès. De nombreux anciens gardes rouges revenus de leurs illusions figureront plus tard parmi les premiers dissidents chinois et les plus âpres critiques de la légende du grand timonier, comme Wen Jincheng ou Jun Chang. Ces gardes rouges contribuèrent à faire prendre à la Chine des années de retard économique, technique et culturel et représentèrent au moins pour la société urbaine chinoise un traumatisme dont le pays ne commença à se remettre qu'après la mort de Mao. Alors, que sont devenus ces gardes rouges, souvent jeunes instruits d'antan, ceux qui se sont opposés à Mao tout en brandissant le drapeau rouge? Pour en parler aujourd'hui, toujours dans ce studio improvisé de votre salon, Jean-Philippe Béja, ici à Pékin, Su Youyu, ancien garde rouge, philosophe à l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences sociales, engagé dans le mouvement démocratique depuis le 4 juin 89, après les massacres de la place Tiananmen. Et puis vous avez été signataire de la charte 08 qui réclamait donc la séparation des pouvoirs, la fin du parti unique, la création d'une fédération et puis tout un tas de réformes démocratiques, charte pour laquelle Liu Xiaobo a été condamné à 11 ans de prison en décembre 2009. Avec vous, Ying Hongbiao, professeur de relations internationales à l'université de Beida, à l'université de Pékin. Alors vous êtes historien amateur, comme on dit, entre guillemets, de la révolution culturelle. Alors je précise que vous êtes historien amateur parce que c'est un sujet qu'on ne traite pas officiellement ici. C'est un sujet qui n'est pas autorisé. C'est bien ça, Ying Hongbiao ?
Ma spécialité, c'est le Parti communiste chinois, en particulier les luttes de pouvoir au sommet de l'appareil. La révolution culturelle est une période importante de l'histoire du parti. Malheureusement, elle est toujours abordée de manière superficielle. Selon le gouvernement, on doit désapprouver la révolution culturelle, condamner la bande des quatre et la clique de Lin Biao, mais on ne doit pas pousser l'analyse plus loin. Une partie de mes recherches concerne les gardes rouges, recherches qui ne sont pas encouragées par le pouvoir.
Et avec nous également Jean-Philippe Béja, notre hôte, sinologue, directeur de recherche au CNRS et au CEFC, actuellement en poste à Pékin, l'Institut de sociologie de l'Académie des sciences sociales de Chine. Et puis à côté de vous, Jean-Philippe, Michel Bonin, sinologue, directeur d'études à l'École des hautes études et spécialiste de l'histoire contemporaine chinoise et notamment des jeunes instruits actuellement également en poste à Pékin. Alors, je voudrais commencer cette table ronde par une question à vous, Su Youyu. Comment vous êtes devenu garde rouge ?
Quand la révolution culturelle a commencé, je n'avais pas les conditions requises pour devenir garde rouge, car je n'avais pas une bonne origine de classe. Seules les cinq catégories rouges avaient le droit d'être garde rouge. Puis, à partir du mois d'octobre de 1966, les choses ont changé. Ceux dont l'origine de classe n'était pas excellente, soutenus par Mao Zedong, pouvaient se rebeller. Nous n'avions pas le statut de garde rouge, mais tout le monde nous considérait comme tel.
Alors comment on devient rebelle, garde rouge dans l'atmosphère de l'époque? Peut-être qu'on peut resituer déjà qu'est-ce que c'est que cette atmosphère de l'époque où Mao lance ses gardes rouges contre les cadres du Parti communiste.
À cause de la révolution culturelle, l'atmosphère était électrique, tout au moins au début. Lin Biao demandait aux étudiants de lire les œuvres du président Mao, d'écouter ses discours et de devenir un de ses fidèles soldats. Tout ce que disait Mao Zedong était la vérité absolue. C'est comme ça que nous avons été happés par le tourbillon ravageur de la révolution culturelle.
Mais alors, vous aviez quel âge et comment ça se passe? Vous vous souvenez du premier jour où vous endossez les habits de garde rouge?
J'avais 17 ans à l'époque et je me préparais à entrer à l'université. La révolution culturelle a officiellement commencé le 16 mai 1966 avec la promulgation par le gouvernement central de l'avis du 16 mai. Mais ce qui a tout déclenché, c'est la diffusion par la radio centrale du peuple du Dazibao, rédigé par les 7 membres de l'université Tsinghua, dont faisait partie Nie Yuanzi. On peut dire que ce jour-là a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Nous étions surexcités. Nous avons défilé dans le campus de la fac pour fêter l'avènement de la grande révolution culturelle prolétarienne.
Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là?
Nous arrêtions pas de recevoir du gouvernement toutes sortes de nouvelles qui nous enflammaient le cœur. Le quotidien du peuple, entre autres, tapissait ses unes du reportage sur les entrevues de Mao avec les étudiants. De notre côté, nous organisions des grandes réunions au sein de l'école où les élèves s'exprimaient ouvertement et poussaient des cris de joie pour montrer qu'ils étaient résolus à suivre le président Mao pour faire triompher la révolution.
Vous vous souvenez, Ying Hongbiao, de ce moment-là?
Je me souviens très bien, c'était le premier jour de la révolution, le 3 juin. Je suis allé en cours. Ce jour-là, quand je suis arrivé, je trouvais qu'il y ait régné une ambiance inhabituelle. Mes camarades étaient en pleine discussion, puis le professeur a commencé son cours. Au milieu de la séance, nous avons entendu un groupe d'élèves descendre les escaliers en criant. Le moment d'après, nous avons entendu un autre groupe descendre en hurlant. De plus en plus d'élèves descendaient pour se rendre sur le terrain du sport et hurler. Ils exultaient comme s'ils venaient d'être libérés. Ensuite, ils sont venus cogner aux fenêtres. Malheureusement, on n'entend pas ce qu'ils hurlaient. Ils semblaient se moquer de nous et nous reprochent d'être encore en classe. Nous avons rétorqué que comme le professeur faisait encore cours, on ne pouvait pas les rejoindre. Mais il continuait à frapper au carreau. Le professeur disait, en regardant continuellement sa montre, « Encore 10 minutes, encore 5 minutes. » Nous étions mal à l'aise, puis la cloche a sonné. Nous sommes sortis sans le saluer. Nous ne sommes plus jamais retournés en cours par la suite.
Alors, qu'est-ce qui se passe, Jean-Philippe Béja, justement, ce jour-là? C'est la liberté totale, c'est l'anarchie totale qui s'installe en Chine?
Ce jour-là, on ne sait pas encore si c'est l'anarchie totale ou la liberté totale, mais ce qui est évident, c'est qu'on se trouve dans une situation où la pression est extrêmement forte dans les classes. Il y a une espèce de morale depuis le début des années 60 où, comme le disait Ying Hongbiao, quand le professeur, à la fin de la leçon, on s'incline devant lui, au début de la leçon, on s'incline devant lui. Et alors, quand on a cette espèce de possibilité, d'un côté, bien sûr, il y a le fanatisme, comme le disait Su Youyi, c'est-à-dire que si le président Mao a dit quelque chose, ça va renverser le monde. Et puis, en même temps, il y a cette idée que, les étudiants qui sont un peu moins sages que la classe de l'Irambia, ils vont en profiter pour descendre dans le terrain de sport et aussi commencer à s'exprimer un petit peu. Alors, c'est pas tout de suite qu'on va avoir la création des organisations, etc. Ça, il faudra un certain temps, mais ça va se faire assez rapidement. Mais comme le rappelait Su Youyi, c'est pas n'importe qui au début qui peut créer une organisation de garde rouge. Il faut être des 5 catégories rouges. Hein. Ça veut dire ouvriers, paysans, soldats, fils de martyrs et fils de cadres révolutionnaires. Les autres, pas question qu'ils en profitent. Les autres, ils font profil bas pendant ce moment-là. Et pendant que, quand ces gardes rouges vont commencer à s'agiter, etc., les cibles, ce ne sera pas seulement les cadres du parti, ce sera aussi les éléments qui sont issus des 5 catégories noires. Si vous voulez, cette libération est une libération... J'allais dire une libération conditionnelle.
Les 5 catégories noires qui sont...
Les 5 catégories de noires qui sont propriétaires fonciers, paysans riches, contre-révolutionnaires, mauvais éléments et droitiers. Vous avez les enfants d'intellectuels, par exemple, aussi, sont considérés comme... Alors après, on en aura de plus en plus des catégories noires. Hein, à fur et à mesure que la révolution culturelle arrivera, ça dépend des endroits, on en a 16, 17. Les intellectuels, ça deviendra les puants de la 9e catégorie. 9e catégorie. Mais si vous voulez, on a cette libération qui est vraiment conditionnelle à votre naissance. Hein. Et c'est seulement dans un deuxième temps, donc, comme le disait Su Youyi tout à l'heure, après le mois d'octobre, qu'effectivement, là, il va y avoir toutes sortes de personnes qui vont créer des groupes de garde rouge. Et là, il y aura, tout en étant toujours au nom de la pensée Mao Zedong, avec le discours de Mao Zedong, mais là, on aura des positions politiques qui seront différentes, y compris des gens de mauvaise origine qui chercheront à réobtenir l'égalité. Mais ça, on en parlera, je suppose, tout à l'heure.
Oui, je pense que c'est vrai que le phénomène de catégorisation de classe a été très important. Et c'est quelque chose qui explique en partie la côté excité et violent de la révolution culturelle. C'est que depuis 62, en fait, donc depuis que Mao a dit « Camarades, n'oublions pas la lutte de classe », et qu'il a imposé une attention particulière à la question des classes, et donc il a dit que la lutte des classes continuait sous le socialisme. Donc il y a eu une pression de plus en plus forte sur les gens qui étaient les jeunes qui étaient de mauvaise origine, qui eux étaient aussi formés... selon les idéaux de Mao, et donc qui voulaient être révolutionnaires. Et tout d'un coup, on leur a dit non. Vous êtes des enfants des sales catégories, des ennemis de classe, etc. Et donc là, ça, c'est quelque chose qui a joué dans cette tension de la société. Hein, et tous ces gens qui n'étaient pas de très bonne origine, qui n'étaient pas ouvriers, parce que bon, là, on parle des villes, hein, qui n'étaient pas ouvriers ou fils de cadre, ou à l'époque, encore des fils de hauts dirigeants intellectuels, mais du parti. Tous ces gens qui étaient en dehors de ça, ils sentaient une pression très forte, hein, tous ces jeunes. Et donc, vous voyez, la révolution culturelle a été un moment où finalement toutes ces frustrations ont pu s'exprimer. Au départ, il y a eu une différence effectivement très nette, c'est-à-dire que les jeunes qui n'étaient pas de bonne origine ne pouvaient pas entrer dans les organisations garde rouge. Les gardes rouges, c'était uniquement les enfants des hauts dirigeants et les enfants d'ouvriers qui avaient un rôle secondaire. Mais Mao s'est rendu compte que c'était un problème. Il s'est rendu compte que, du coup, ces gens qui étaient les enfants des hauts dirigeants, ils avaient tendance à protéger les hauts dirigeants. Donc ils tapaient. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tapé sur les intellectuels, sur les bourgeois, enfin les enfants de capitalistes ou les anciens capitalistes. Mais ils n'ont pas tellement tapé sur les cadres parce qu'ils étaient enfants de cadres. Donc finalement, Mao s'est rendu compte que ça bloquait ce qu'il voulait lui, c'est-à-dire la mise à bas de tous ces dirigeants qu'il considérait comme ses ennemis. Et donc il a fait appel aux autres. Et alors là, pour les autres, c'est-à-dire ceux qui étaient de mauvaise origine, ça a été une libération incroyable. Et donc, ils ont adoré encore plus Mao, parce qu'ils ont dit, bon, Mao nous comprend. Mao comprend qu'on peut être de mauvaise origine ou d'origine moyenne et être révolutionnaire. Donc ça, c'est ce phénomène de la réinstauration de la lutte de classe et des catégorisations de classe par Mao au début des années 60 a joué un rôle essentiel.
Alors Su Youyou, à 16 ans, quand tout ça démarre, on comprend ce qui se passe, on comprend ce que c'est qu'un garde rouge, malgré votre mauvaise origine de classe, vous allez en faire partie, mais est-ce qu'on comprend ce qui se passe ?
Je n'étais pas très lucide à l'époque. En fait, je ne comprenais pas grand-chose. Je croyais que c'était une grande révolution, qu'elle allait régler le destin du genre humain et que Pékin allait devenir la base d'appui, la capitale de la révolution mondiale. En réalité, nous n'avions aucune idée de ce qu'était vraiment la révolution culturelle.
Vous aussi, Yinghong Piao, vous aviez cette analyse ? Vous pensiez que Pékin allait devenir le centre du monde ?
À ce moment-là, j'étais un peu plus jeune. Je venais de fêter mes 15 ans. En voyant agir les lycéens et d'autres élèves plus âgés, on avait envie de faire comme eux. Comme les lycéens disaient les mêmes choses qu'à la radio, on les écoutait. Ça m'a fait un choc que quand on nous a dit que nous ne faisions partie ni de la catégorie des gens bien, ni de celle des mauvais, mais de celle qui se trouve entre les deux, celle qui nous interdisait d'être garde rouge. On voyait les copains jouer, mais on nous interdisait de les joindre. C'est vrai, sur le plan politique, nous ne comprenions presque rien, mais nous trouvions que l'appel lancé par le président Mao était quelque chose de grandiose.
Mais autant vous, Su Youyou, que vous, Yinghong Piao, comment on comprend finalement qu'on est un garde rouge ?
Le célèbre écrivain Ba Jing a dit « Les jeunes étudiants sont devenus des loups en une nuit ». Je pense que cette analyse est erronée. En fait, tout ne s'est pas passé en un jour. Avec ce que nous avions ingurgité comme éducation et bourrage de crâne idéologique, nous attendions le jour J depuis longtemps. Dans tous les films ou des pièces de théâtre ou à la radio, il n'était question que de lutte de classe. Notre unique sujet d'étude, Lei Feng, disait que face à l'ennemi, nous devions être impitoyables comme la fin de l'hiver. Les pages de notre manuel de cours étaient remplies d'enquêtes écrites par Mao Zedong sur le mouvement paysan au Hunan. Ces articles parlaient des luttes contre les propriétaires terriens et des ennemis de classe qu'on avait affublés des bonnets d'âne, que l'on humiliait physiquement, que l'on suspendait au bout d'une corde pour ensuite les tabasser.
Début juin, nous n'allions plus en cours. Pendant une cinquantaine de jours, jusqu'à fin juillet, une équipe de travail est venue diriger, encadrer le mouvement. À ce moment-là, on commençait à pointer du doigt les ennemis politiques. La première fois, c'est quand les professeurs que l'on appelait les démons, bovins et esprits serpents ont été parqués sur le terrain de sport pour y être tapassés par les élèves. De plus, Mao Zedong disait qu'agir en douceur, c'était suivre la ligne de Liu Shaoqi. Donc, quand les violences ont éclaté, le gouvernement gouvernement n'a pas bougé le petit doigt, ce qui leur a permis de proliférer.
Oui, parce que Jean-Philippe Béja s'entame alors une période ultra-violente où, on s'adonne à toute forme de violence. Ça va du tabassage au meurtre, parfois, et même on va manger l'ennemi au sens propre du terme.
Oui, alors bon, là, on est en train d'avancer dans l'histoire. Il y a déjà, dès l'été 66, il commence à y avoir le grand mouvement de l'élimination. Procedio, c'est-à-dire éliminer les quatre anciens, et là on va aller les quatre vieilleries, et on va aller perquisitionner dans les appartements, dans les logements des gens de mauvaise catégorie sociale, hein, toujours au début, et casser tout ce qu'ils ont qui rappelle les vieilles coutumes, les vieilles mœurs, la vieille culture, etc. Et donc, c'est à ce moment-là aussi que le Tianjude, vous savez, le restaurant de canard laqué de Pékin, on va trouver que c'était un nom féodal, on arrache, on enlève l'enseigne, on la casse, on a tout ça. Et puis, quand on va perquisitionner chez les gens, on en profite aussi. Les gardes rouges sont fameux pour leurs ceintures de cuir, ils ont des ceinturons militaires, et ils vont commencer à cogner les gens. Et puis, on va organiser des séances de critique. Et alors, non seulement les séances de critiques seront d'abord, évidemment, contre les gens des catégories noires, mais aussi, rapidement, contre les ennemis de Mao, en fait, des gens qui sont les cadres révisionnistes. L'une des séances de critiques qui est très, très connue, c'est celle de Wang Guangmei, la femme de Liu Shaoqi. La séance de critique de Wang Guangmei est organisée à l'université Tsinghua par Kuai Dafu, qui est un des leaders des gardes rouges qui a le contact direct avec la présidente du groupe central chargé de la révolution culturelle, qui est Jiang Qing. Et là, on va l'obliger à mettre une robe qu'elle avait mise en Indonésie pour dénoncer son caractère bourgeois.
Alors, juste les révisionnistes.
Oui, alors les révisionnistes, ce sont les gens qui, derrière le Khrushchev chinois, Liu Shaoqi, sont en train d'essayer de transformer la Chine de rouge en blanc et de vouloir en faire, comme Khrushchev, une espèce de communisme de goulash au lieu de faire véritablement une Chine révolutionnaire qui donnera l'exemple au monde entier, notamment au tiers-monde. Et on va avoir... Alors, vous avez des groupes qui protègent les anciens cadres et des groupes qui les attaquent. Et alors d'ailleurs, vous avez même des groupes qui protègent certains cadres et d'autres groupes qui protègent d'autres cadres. Et il va y avoir donc, dans chaque ville de Chine, partout, il va y avoir des factions diverses. Alors ces factions seront plus ou moins directement liées avec des groupes au centre à Pékin. Une partie d'entre elles seront manipulées directement par le groupe central chargé de la révolution culturelle, mais vous en avez d'autres qui le sont moins. Et alors là, il va y avoir, surtout dans l'année 67, des grandes violences, des épisodes de violence, parce que le mot d'ordre du parti, c'est on attaque verbalement, mais on peut se défendre militairement. Et évidemment, qui attaque, qui se défend, à partir du moment où on se défend, on va y aller. Et ça va aller très loin, puisqu'on va aussi piller des arsenaux de l'armée pour lutter contre les diverses la faction opposée. Et là, il va y avoir effectivement énormément de violence. Et à ce moment-là, surtout, Mao va prendre peur en disant « si on commence à s'attaquer à l'armée populaire de libération, ça ne va pas ». Donc l'armée est intouchable et ensuite l'armée va décider qui soutenir. Soutenir la gauche, ce sera le mouvement de soutien à la gauche, et c'est eux qui choisiront les bons gardes rouges contre les mauvais. Et en fait, les pires violences se font à partir de ce moment-là. C'est-à-dire quand l'armée a décidé de soutenir certains groupes, et là il va y avoir des massacres. Les massacres de Chongqing dont vous parliez, c'est effectivement ça. Et alors, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des gens qui profitent de cette atmosphère où on peut, dans une certaine mesure, s'organiser pour défendre la pensée de Mao Zedong. Un certain nombre de gens qui étaient des victimes des divers mouvements vont essayer de profiter de ça, de s'organiser eux aussi comme garde rouge pour essayer d'obtenir leur réhabilitation ou tout au moins aller rechercher leur dossier dans les, auprès de la sécurité publique. Il y a notamment Yang Xiguang, qui est un des leaders de garde-rouge de 1968, qui raconte comment il y avait un certain nombre d'anciens droitiers au Hunan qui étaient dans son groupe de garde-rouge et qui cherchaient absolument à se faire réhabiliter. Donc, dans cette espèce de choses absolument invraisemblables, qui semblent complètement incompréhensibles, où une faction s'oppose à une autre violemment pour défendre la pensée de Mao Zedong, vous avez en fait aussi un certain nombre d'intérêts réels, un certain nombre de gens qui ont un agenda politique, qui vont essayer d'en profiter. Cela, évidemment, va être très rapidement réprimé, et la personne dont parle Yang Xiguang va se retrouver condamné comme contre-révolutionnaire et faire 10 ans de prison, comme lui d'ailleurs.
Su Yuyu, vous vous souvenez, justement, avoir participé à ces violences? Vous avez été violent vous-même contre d'autres gardes rouges n'appartenant pas à votre faction. Comment, racontez-moi comment ça s'est passé pour vous.
Au début, les combats étaient nombreux et mettaient aux prises les rebelles et les conservateurs. Ces derniers ne pouvaient pas le fait de s'en prendre physiquement à ceux qui avaient emprunté la voie capitaliste, ceux qui étaient au pouvoir ou les deux, c'est-à-dire les unités de travail et les fonctionnaires gouvernementaux. Mais ces derniers se contrôlaient pour se protéger. La première étape a commencé en septembre et s'est achevée fin décembre 1966. La lutte entre les conservateurs et les rebelles se sont terminées en combats de rue. Elles se réglaient à coups de bâton. Finalement, les rebelles ont fait tomber les conservateurs. La deuxième étape a constitué en une suite de luttes entre les factions conservatrices, lutte encore plus féroce. Les conservateurs et les rebelles se battaient avec leurs poings, avec les bâtons, etc. Là, avec l'intervention de l'armée, des armes à feu et même des canons circulaient. Voilà pourquoi les combats entre les rebelles et l'armée ont été si intenses. J'ai assisté à tout cela.
On peut essayer de clarifier un peu les victimes de violence. Au tout début, les victimes de violence, c'est les gens de mauvaise origine, c'est-à-dire les gens qui étaient descendants de capitalistes, enfin anciens capitalistes, intellectuels ou artistes dénoncés par Mao. Considéré donc comme réactionnaire. Et là, à ce moment-là, on a surtout des séances d'humiliation. Alors c'est violent parce qu'on vous tire les cheveux, on vous rase, on vous, etc. Mais c'est des humiliations et c'est finalement, mais ça peut être mortel parce que beaucoup d'intellectuels se sont suicidés à ce moment-là parce qu'ils ne supportaient pas l'humiliation. Il y a des grands noms, hein, un écrivain comme Lao She, des grands écrivains, des grands artistes, etc., se sont suicidés, des philosophes se sont suicidés parce qu'ils ne supportaient pas l'humiliation. Et les coups, mais c'était l'humiliation. Et donc ça, c'est les premières victimes. Et puis après, une fois qu'on a liquidé tous ces gens-là, ou qu'on les a, qu'ils ont préféré fuir en rentrant dans leur village d'origine, etc., ou autre, après, la question qui a été posée par Mao lui-même, parce qu'il voulait se débarrasser d'une grande partie des cadres, la question c'était se débarrasser des cadres. Donc les cadres deviennent, les dirigeants deviennent les cibles. Et là, donc c'est le moment où il y a les bagarres entre les conservateurs, qui sont, on appelle les protecteurs de l'empereur, hein, en chinois, qui veulent protéger en fait tous ces cadres, hein, et donc c'est souvent leurs enfants qui les protègent, hein, et puis les rebelles, qui, eux, sont plutôt, en général, de mauvaise origine. Il y a aussi des rebelles qui ne sont pas de mauvaise origine, hein, mais qui considèrent que tous ces cadres sont des pourris et qu'il faut, il faut les liquider. Donc, à ce moment-là, cette bagarre commence à devenir beaucoup plus violente. Mais ça reste, il n'y a pas encore l'armée. Le problème, c'est quand l'armée, quand Mao décide qu'il faut faire intervenir l'armée pour que l'armée soutienne les bons. Mais l'armée, finalement, très souvent, ils ne savent pas trop qui soutenir. Et puis du coup, eux-mêmes prennent des coups. Ou eux-mêmes en donnent pour se protéger. Enfin, donc ça devient d'une complexité infinie. Et finalement, comme le dit Suryu, finalement, les rebelles se battent entre eux. Hein, parce que chaque groupe défend des intérêts et chaque groupe a peur des autres. Hein, finalement, c'est intéressant sur ce phénomène de quand on lâche la violence publique, c'est terrible parce que c'est une guerre civile. On vit dans la terreur d'être battu par l'autre. Donc il faut tuer l'autre avant qu'il vous tue. Quoi. C'est comme ça que ça se passe. Hein, et donc on a cette période où finalement les gardes rouges, alors qu'ils comprennent d'ailleurs pas seulement les lycéens et les étudiants, mais aussi des ouvriers, et surtout des ouvriers, se battent entre eux. Bon. Et puis après, alors il y a encore autre chose après, et finalement c'est là où il y aura sans doute encore le plus de victimes, c'est quand l'armée elle-même, quand Mao décide d'en finir avec la révolution culturelle, et que il donne à l'armée l'ordre de remettre l'ordre en Chine. Et là, l'armée, elle va être très, très violente. Hein. Et c'est là où, bon, il y a des endroits où, au Guangxi, on tire à l'arme lourde. Hein. Et les gardes rouges, ils meurent par centaines. Hein. Et donc c'est... les victimes, c'est d'abord les gens de mauvaise origine, les intellectuels, les artistes, etc. Ensuite, c'est les gardes rouges entre eux qui se tapent dessus. Et puis, après, c'est l'armée qui descend les gardes rouges pour arrêter le mouvement. Hein, donc, il y a à peu près, je pense qu'on peut dire, en gros... Hein, c'est très complexe. Hein, c'est très complexe, mais en gros, c'est ça. Alors, évidemment, à partir du moment... Peut-être le plus complexe, c'est au moment où, effectivement, les différents groupes se battent entre eux. Parce que là, ça devient assez difficile à comprendre. Hein, parce qu'ils sont tous, comme on disait à l'époque, ils brandissent le drapeau rouge pour lutter contre le drapeau rouge. Mais qui est le vrai drapeau ? Et c'est ça, le problème. Hein, et donc, à ce moment-là, c'est extrêmement complexe. Et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que il y a un moment où on lâche aussi des pulsions de mort dans la société. Et comme le disait Alain tout à l'heure, on en arrive au cannibalisme. Hein, au Guangxi notamment, il y a eu des cas de cannibalisme qui ne sont pas du cannibalisme de famine, hein, mais du cannibalisme de haine. On va tuer des gens qu'on considère comme des sous-hommes, hein, mais en même temps, on va manger leur foie ou leur cœur ou leur partie génitale pour se donner de la force, hein, et pour être plus courageux pour se battre. Bon, ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, à partir du moment où on lâche la barbarie dans la société, ça peut aller très, très loin. Et finalement, la seule solution... Ce que Mao va faire, c'est de dire à l'armée, bon ben, arrêtez tout ça, et violemment, évidemment. Et les plus grandes violences ont été, c'est pas les violences qui ont été faites par les gardes rouges, c'est les violences qu'ont subies les gardes rouges.
Alors, Xu Youyu et Yin Hongpiao, Michel Bonin utilisait le mot de barbarie. On a conscience à l'époque qu'on est dans une société où tout le monde se bat contre tout le monde.
我先说一下，就是说刚才讲到，最开始的那个暴力呢，是主要是针对的，总体上针对党外的所谓的。
Je dois d'abord dire que les premières violences visaient principalement des gens extérieurs du parti, les ennemis de classe, les propriétaires terriens, les paysans riches, les contre-révolutionnaires, les mauvais éléments et les droitiers.
怎么是这个很复杂的或者很微妙的现象？
C'était au mois d'août 1966, Mao Zedong voulait inciter les étudiants à faire la révolution et à détruire l'ordre existant. Ces dernières ont commencé à se mettre à l'ouvrage. Je sentais qu'à ce moment-là, la consigne implicite de Mao et du gouvernement central était de les laisser faire. Mao disait que c'était la façon révolutionnaire d'agir des gardes rouges. Pourtant, le gouvernement avait publié un document qui stipulait que l'on devait lutter avec les mots, pas avec les armes. Mais les médias officiels ne faisaient jamais mention des actes de violence. Le gouvernement n'encourageait pas la lutte armée, mais ne prenait aucune mesure pour la stopper. L'autre événement de la révolution culturelle, c'est la destruction des quatre vieilleries, des vestiges du patrimoine culturel.
还有一个破四旧，就是打文物，这个杂文物也有这样的现象。我可以再继续说一点，就是说，从一个数字也能说。
De la mi-août à début septembre, 1770 personnes environ ont péri sous les coups de leurs bourreaux. C'était le terrible et sanglant août rouge. Comme je viens de le dire, d'un côté, le gouvernement laissait faire, de l'autre, il attisait le feu. Le mouvement s'est propagé en province, non pas grâce aux documents publiés par le gouvernement, mais par l'intermédiaire des étudiants qui étaient venus au pays. La violence a débarqué plus tard à Shanghai et directement importée de Pékin. Après les durées qui avaient eu lieu dans la capitale, le gouvernement a pris le problème à bras le corps et est intervenu. Ainsi, à Shanghai, le mouvement a été tué dans l'œuf. Et il y a eu entre 5 et 7 morts, 3 ayant été assassinés par des étudiants venant de Pékin. Cet écart de chiffres est dû aux différences culturelles entre les deux villes. Les Shanghaïens sont plus posés et de plus, à Shanghai, le degré de chaos n'avait pas encore atteint celui de Pékin.
就武汉好像是一百上下，就是比北京完全不在一个层级，就是说中央是这么一个政策。
Non, je voulais dire, c'est intéressant. C'est vrai que le Mao ou le groupe de la révolution culturelle n'ont jamais dit il faut tuer des gens. Hein, donc ça, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que toute cette, à partir du moment où on lâche cette violence, et surtout, on doit s'attendre à la violence publique, à la violence collective, ça peut être absolument terrible. Et surtout, quand on a finalement fait un travail d'excitation de la haine contre les ennemis de classe depuis des années. Hein. Et ça, je pense que c'est vraiment très important parce que j'ai un ami qui vient de m'envoyer un texte qu'il a fait, une enquête qu'il a fait sur le massacre des prisonniers condamnés au camp de réforme par le travail à Canton à l'été 67. On a massacré, et alors non seulement on les massacrait, mais on les pendait au réverbère. Hein, donc pour montrer quoi, voilà, et c'était considéré comme normal parce que ces gens-là, puisqu'ils étaient des condamnés à des camps au camp de travail, c'est qu'ils étaient des ennemis de classe. Donc les ennemis de classe n'étaient pas des êtres humains. Les ennemis de classe n'étaient pas des êtres humains. Les ennemis de classe étaient ce qu'on appelait des nyogweshoshen ou bien des diables à tête de vache et à corps de serpent. Hein. Donc ça veut dire. Bon, on voit ça, en fait, parce que pendant des années et des années, Mao a critiqué l'humanisme bourgeois. Hein, et donc, il n'y a pas d'idée d'humanisme. Il y a l'idée qu'il y a les bons, c'est-à-dire nous, le peuple et Mao, hein, et puis des gens qui ne sont pas vraiment humains, hein, qui sont les ennemis du peuple, qui sont les ennemis de classe, Et donc, on peut leur faire n'importe quoi. On peut les tuer, on peut attacher leur... Comme ça a été fait à Canton, et on les a pendus au réverbère, comme ça. En plus, la plupart dans certains cas, d'ailleurs, on a la preuve que ce n'était pas du tout des gens ont été pris comme ça, alors qu'ils n'étaient pas des prisonniers des camps de travail. Donc, c'était simplement de la violence. C'était un espèce de principe de mort qui existe dans toute société. Et ça, c'était... Je veux dire, la responsabilité de Marot est énorme. C'est-à-dire qu'il a lâché ça. Il a lâché ça, il a laissé faire ça, exactement comme au Rwanda, quand les dirigeants ont dit les autres sont des cockroaches, sont des cafards, c'est pas des êtres humains. Hein, à partir du moment où on décide que dans une certaine société, il y a des gens qui sont pas des êtres humains, hein, alors on peut tout leur faire. Et je pense que c'est ça la grande responsabilité. C'est pas que Mao a dit il faut tuer des gens. Il a jamais dit il faut tuer des ennemis. Mais il a fait tout pour que cette violence soit incontrôlable.
Alors comment on sent ? On réagit froidement quand on assiste à ça ou il y a un conflit intérieur qui émerge ?
Les gens de ma génération pensaient que les problèmes devaient se régler par la lutte. Si on ne liquidait pas l'ennemi, c'est lui qui nous éliminerait. De plus, chaque garde rouge et membre d'organisation pensait détenir la vérité absolue et faisait corps avec Mao. Tout le monde se croyait plus révolutionnaire que le voisin et voyait en lui un contre-révolutionnaire en puissance. Si on n'écrasait pas l'ennemi, c'est lui qui va vous écraser. Ainsi, tout le monde était persuadé que liquider son prochain était justifié. J'ai grandi en lisant des romans humanistes d'écrivains européens. En voyant cette réalité sortie, nombre de pensées confuses se sont bousculées dans ma tête. Ce que je voyais était terrifiant, je n'arrivais pas à le supporter. C'était sans doute dû à l'influence qu'avait eue sur moi la pensée européenne. La plupart des gens pensaient que, comme la vérité était entre leurs mains, ils se devaient d'éliminer leur adversaire.
Alors, après que Mao ait créé cette espèce de climat apocalyptique dans la société chinoise, il envoie l'armée, et puis c'est la disgrâce, c'est la persécution des gardes rouges, et puis c'est l'oubli. On vous met dans les oubliettes de l'histoire. Comment on sort d'une expérience comme celle de la révolution culturelle et comme celle des gardes rouges, Yin Hong Piao ?
Quand le mouvement des gardes rouges a commencé à péricliter, des heurts violents se sont produits un peu partout entre des différentes factions. Mais l'intensité des violences variait selon la province, la région ou l'école où elle avait lieu. La population détestait la bagarre. C'est justement à cause de cela que beaucoup de gens refusaient de se battre. Ils trouvaient que ce n'avait aucun intérêt de se taper les uns sur les autres. Seuls les plus fanatiques le faisaient. Dans mon école, il n'y a jamais eu de bagarre entre des factions. Ce sont deux groupes qui sont venus de l'extérieur pour en découdre. Une de ces deux factions s'appelait la chorale des vieux gardes rouges. Ils avaient débarqué dans notre école pour s'exercer au chant. Notre établissement se trouvait tout près d'une garnison militaire. Les ennemis de cette faction se sont rendus dans cette garnison pour y défiler. Ayant appris que les vieux gardes rouges s'entraînaient au champ non loin de là, ils ont débarqué dans notre école pour en découdre avec eux. Nous étions au milieu pour essayer de les séparer. Et quand, par la suite, ils se sont intensifiés, le gouvernement ayant perdu le contrôle de la situation, les combats se sont progressivement dépolitisés pour devenir de simples règlements de compte entre des factions de garde rouge. Le parti a donc pris la décision d'envoyer des ouvriers et des équipes de propagande de l'armée dans les écoles pour répartir le travail entre les étudiants. On les envoyait dans les usines, dans les casernes ou à la campagne pour y travailler un an ou plus. Les collégiens, lycéens ont été envoyés à la campagne. C'est comme ça qu'a débuté le mouvement d'envoi à la campagne. Ensuite a éclaté l'affaire dont a parlé Pan Mingxiang. Il y a même eu des cas de cannibalisme. C'est donc en envoyant l'armée et ses équipes de propagande que le problème de la violence a été réglé. Les historiens pensent aussi que les équipes de propagande ont été envoyées dans les écoles pour stopper les combats. Par exemple, à Tsinghua, les luttes étaient extrêmement violentes. Il a fallu faire intervenir les ouvriers. Après la dissolution des organisations de garde rouge, les étudiants ont été envoyés à la campagne et les écoles se sont vidées d'un seul coup.
Alors, Suyu, vous, comment on sort d'une expérience comme celle-ci? Comment on passe du garde rouge que vous étiez à ce militant pour la démocratie à la suite donc, du 4 juin 89, à la suite des massacres de Tiananmen? Et comment on devient signataire de la charte 08? C'est un long parcours, j'imagine.
Les gens de notre génération sont à quelques exceptions près, tous passés par là. Sauf que nous, nous sommes allés beaucoup plus loin que les autres. Nous sommes passés de disciples inconditionnels du président Mao à fervents défenseurs de la révolution. Puis, pour finir, nous nous sommes opposés aux théories de la révolution culturelle et à son application. Nous nous sommes sentis politiquement floués car Mao Zedong nous avait utilisés pour lancer la révolution culturelle, nous appelant les petits généraux de la révolution. Jiang Qing disait même de nous que nous étions des petits soleils. Comme nous avions renversé Liu Shaoqi, ils avaient atteint leur but politique. À l'été 1968, il a décidé que c'était nous qui avions commis des erreurs et nous a fait disparaître de la scène politique. Nous pensions alors que la politique n'était que trahison et mensonge. On nous avait manipulés, trompés. Si au stade précédent, nous avions eu le sentiment d'avoir été trompés, nous avions encore confiance en le système. Mais une fois à la campagne, nous avons constaté que la Chine avait atteint un degré sidérant de pauvreté et d'arriération. En voyant ces paysans qui vivaient comme des miséraux, nous avons commencé à émettre des doutes quant aux bienfaits du socialisme et de l'éducation et de la propagande qui relaye les professeurs et les manuels scolaires. Le troisième événement qui a fait que notre pensée a pris une nouvelle direction a été l'affaire Lin Biao de 1971. Le maréchal Lin Biao, l'héritier désigné de Mao et son fidèle sujet, était accusé d'être un traître à la patrie. Il est mort dans un accident d'avion en territoire mongol. Avec cette affaire, nous ne pouvions plus croire en l'idéal révolutionnaire. La révolution culturelle avait permis au révolutionnaire Lin Biao de prendre la place du révisionniste Liu Shaoqi, mais au bout de compte, Lin Biao était pire que les autres salopards. À quoi avait donc servi la révolution culturelle ? Après être passé ces trois stades, la majorité d'entre nous a plus ou moins tourné le dos à ces idéaux d'antan. Nous avons tiré un bon nombre de leçons du passé, beaucoup réfléchi, lu beaucoup de livres étrangers, réalisé un grand nombre d'enquêtes. Je pense que peu de gens croient encore en l'ancien système. Je suis de ceux-là. Mais moi, je refuse de me laisser gagner par le cynisme. Je veux avancer.
D'où votre engagement après les massacres de la place Tiananmen et votre engagement aux côtés de Liu Xiaobo, rédacteur de la charte 08.
Je pense qu'il faut poursuivre les recherches concernant l'idéologie, puisque notre génération ne croit pas aux théories de la révolution culturelle de Mao. Beaucoup pensent à présent que la politique est une chose effrayante et que dorénavant, ils ne participeront plus à aucune lutte politique, estimant que l'idéologie d'alors était une vaste supercherie et que c'était pour ça qu'elle avait débouché sur un échec. J'ai cherché à savoir pour quelles raisons la révolution culturelle avait pu avoir lieu. Partant de là, je me suis demandé pourquoi le Parti communiste chinois avait réussi à prendre le pouvoir en 1949. Puis, au fil de ma réflexion, je me suis également demandé pourquoi, au XXe siècle, les mouvements communistes et socialistes avaient connu un tel succès. Après avoir réfléchi à toutes ces questions, je me suis posé la question de la légitimité du pouvoir communiste en Chine. Certes, la révolution culturelle a été une époque tragique. Je ne vais pas pour autant m'arrêter de faire de la politique. En fait, je voulais savoir pourquoi la Chine en est arrivée là et où elle est aujourd'hui.
Vaste question, Jean-Philippe Béja, mais c'est à vous que je donnerai le mot de la fin, puisqu'on occupe votre salon. Vous êtes.
C'est parce qu'on occupe mon salon.
Entre autres. Mais est-ce que c'est justement ce type de réflexion qu'a Su Youyu? Est-ce que finalement tous ces gardes rouges ne seraient pas l'incarnation aussi d'une certaine forme de mauvaise conscience chinoise?
Je crois que plus qu'une mauvaise conscience, c'est une expérience. Vous savez, c'était Liu Binyan, qui était un grand journaliste, qui disait, au fond, s'il y a une réforme qui allait si loin, il parlait au milieu des années 80, s'il y a une réforme qui est allée si loin en Chine, c'est parce qu'il y a eu la révolution culturelle. Disons que l'itinéraire qu'a décrit Su Youyu, c'est qu'en fait, il y a eu, dans cette révolution culturelle, il y a eu ce sentiment d'être manipulé, il y a eu au départ une participation à un mouvement politique, et une participation qui était faite souvent, alors avec un langage qui était bien entendu imposé par le grand timonier, mais une participation qui était aussi un moyen de défendre un certain nombre d'intérêts. Et un certain nombre de gens se sont rendus compte à ce moment-là qu'il y avait des véritables problèmes dans la société chinoise. Et l'itinéraire décrit par Su Youyu montre que cette volonté de Mao, qui était au fond, regardez, Mao a lancé la révolution culturelle pour former une génération de successeurs de la cause révolutionnaire. C'est le plus, au fond, c'est le plus énorme échec de l'histoire pour un si grand dirigeant, pour ce grand timonier. Rendez-vous compte, les gens qui étaient censés être des perroquets de la pensée de Mao Zedong, qui devaient répéter, qui devaient devenir des fanatiques, qui devaient faire une révolution culturelle tous les 9 ou 10 ans, comme il a dit, ils suivent en partie, et une certaine partie d'entre eux, cet itinéraire de Su Youyu, c'est-à-dire qu'ils reviennent à toutes les idées contre lesquelles Mao s'était battu. Et pourquoi ? Pour réaliser justement cet idéal d'égalité. Alors, Mao les a manipulés, il a dit, voilà, pour faire la révolution, pour libérer l'humanité, vous devez m'écouter. Et au cours de leur expérience, ces gens-là se sont rendus compte qu'au contraire, pour pouvoir libérer l'humanité, il fallait se libérer de la direction, de la dictature du Parti communiste. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui ont participé à ce mouvement sont arrivés aussi loin que Su Youyu. Mais ce qu'il disait quand même, et qui est tout à fait juste, vous savez, il y a un poème de Bei Dao, qui est un grand poète, qui, au moment du mouvement du mur de la démocratie, qui est animé par essentiellement d'anciens gardes rouges, écrit un poème. Et son poème, c'est la, il s'appelle La Réponse, et le vers principal, c'est « Je ne crois pas ». Je ne crois pas que le ciel est bleu. Je ne crois pas. Et cette génération qui avait tellement cru, qui était tellement fanatique, au fond, on pourrait dire que son étendard aujourd'hui, c'est « je ne crois pas ». Je ne crois pas à ce qu'on m'a enseigné. Et aujourd'hui, je cherche à penser par moi-même. C'est ce que décrivait Su Youyu. Je cherche à comprendre les racines profondes de la tragédie qui s'est abattue sur la Chine. Et c'est ainsi qu'au fond, une partie des gens de cette génération, Liu Xiaobo en est un, Su Youyu en est un autre, et il y en a bien d'autres, sont arrivés à signer la charte 08 et à défendre les droits fondamentaux de l'homme. C'est-à-dire qu'on est parti de la grande révolution mondiale pour appliquer la pensée Mao Zedong, et on est arrivé à la volonté de transformer la Chine en une démocratie.
Yin Hong Piao, merci beaucoup. Si Xianyi, Su Youyu, merci beaucoup également d'avoir participé à ce débat. Jean-Philippe, à bientôt dans votre salon. Michel Bonin, merci beaucoup.
Mao Zedong. La cantoise. Je vois ma vie en Anna Huangini.
Yang Yang.
Yang Misa Cookie.
Zhao Rong Kun.
Alan. Nav Coach.
Ainsi s'achève la première étape de notre grande traversée consacrée à la Chine. Dans un instant, vous retrouverez les bons plaisirs d'Ali Rebéi. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain matin à partir de 9h pour le second volet de notre exploration de cette Chine sur laquelle plane encore et toujours l'ombre de Mao. Alors je